الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنتابع دروسنا في ما يتيسر من شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، مع شرح فضيلة الشيخ محمد بن سعيد الرسلان حفظه الله. وقد انتهينا من باب من وصل رحمه أحبه الله عز وجل، ووصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى باب بر الأقرب فالأقرب. تفضل أخي نعيم.
باب بر الأقرب فالأقرب. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب.
أحسنت.
Chapitre La bonté de proche en proche. Al-Miqdam Nadi Karib a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah vous recommande vos mères, puis il vous recommande vos mères, ensuite il vous recommande vos pères, et enfin il vous recommande les personnes de proche en proche.
إذن هذا الحديث صحيح، وأخرجه الإمام أحمد كذلك وابن ماجه، وهو حديث صحيح في الحديث من 60 سكوا لا باج يا إسلام
46.
طيب، دونك سي حديث اللي هو أوثنتيك بحمد الله عز وجل. Et il est rapporté par l'imam Ahmed ainsi que Ibn Majah. Hadith sahih. ورجال الإسناد حيوة بن شريح وهو ابن يزيد أبو العباس الحضرمي ثقة. Donc l'imam al-Bukhari رحمه الله تعالى a pris ce hadith, a entendu ce hadith d'un certain Haywa ibn Shuraih. Haywatu ibn Shuraih ibn Yazid Abu al-Abbas al-Hadrami, qui fait partie des rapporteurs fiables des hadiths. Thumma baqiyya, man huwa baqiyya? Huwa ibn al-Walid. Idha qala haddathana wa akhbarana fa huwa thiqa, wa idha haddatha an ahli al-Sham fa huwa thabt وهو مدلس معروف. Puis on a un certain Baqiyya, Baqiyya ibn al-Walid. Donc ce Baqiyya ibn al-Walid, il faut savoir que lorsque il emploie les termes haddathana ou akhbarana, d'accord, qui implique forcément l'écoute, as-sama', haddathana ou akhbarana, as-sama', d'accord, le fait qu'il ait entendu. Les savants du hadith, ils disent que lorsqu'il dit haddathana ou akhbarana, il est thiqa. Son hadith, dans ce cas, il est bon, on peut l'accepter. Taïb. Et également, lorsqu'il rapporte des gens du Sham, de la région du Sham, c'est quelqu'un que, duquel ou dont on peut accepter le hadith aussi. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il ne dit pas akhbarana ou haddathana, il se peut que son hadith ne soit pas accepté. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui est connu, comme il dit ici, de faire du tedlis. C'est quelqu'un qui est connu et qui fait du tedlis. Et là, comment on va le savoir, en fait, c'est quand il va dire « an ». Il ne va pas dire « haddathana ». Il ne va pas dire « un tel nous a dit ». ou un tel nous a informé, ou nous avons entendu. Il va juste dire an fulan. An fulan, an fulan, kada wa kada. D'accord ? Donc ce an là, chez certains rapporteurs, ça peut être du tedlis. C'est-à-dire que ça peut faire croire qu'il a entendu le hadith de la bouche de la personne, alors que ce n'est pas le cas. D'accord ? On appelle ça du tedlis. Donc si le tadlis est avéré, il se peut que le hadith n'est pas accepté. D'accord ? Et puis il dit, lorsqu'il rapporte des gens du Shem, lorsqu'il rapporte le hadith, son hadith, des gens du Shem, des rapporteurs qui habitent au Shem, d'accord ? Son hadith, il est bon aussi, il est faible. Ça veut dire que s'il le rapporte, son hadith, d'autres endroits, des personnes qui sont dans d'autres endroits, par exemple, je ne sais pas moi, en Irak, ou à Basra, Koufa, ou autre, il se peut que le hadith, dans ce cas-là, il n'est pas accepté. D'accord ? Voilà. Donc, là, on voit, quand on survole un peu ces petites notions, on voit que la science du hadith, c'est une science qui est très très vaste, extrêmement vaste, et que ce n'est pas quelque chose qui est simple, dans le sens où on va dire le hadith il est da'if, le hadith il est sahih, le hadith il est hassan, c'est pas comme ça. Il y a un gros gros travail derrière, un gros travail scientifique de recherche et historique. D'accord ? Thumma Bahir An Bahirin هو ابن سعد أبو خالد السحولي ثقة صالح الحديث هنا بحير ابن سعد أبو خالد السحولي rapporteur fiable de hadith ثم خالد ابن معدان ابن أبي كريب الكراعي ثقة puis on a خالد خالد ابن معدان d'accord qui fait partie donc des تابعين d'accord. Donc parmi les tabi'in, on a Khalid ibn Ma'dan. طيب. معاني الكلمات. قوله أي قول المؤلف رحمه الله باب بر الأقرب فالأقرب. أي فالأقرب من جهة الرحم. الأقرب فالأقرب من جهة الرحم. Donc son chapitre qui est intitulé chapitre la bienfaisance envers, c'est quoi ?
La bonté de proche en proche.
La bonté de proche en proche. La bienfaisance, la bonté de proche en proche. C'est-à-dire, là, lorsqu'on parle de proche, ici, on parle de ceux qui sont proches au niveau des liens familiaux, d'accord ? Ceux qui ont un lien familial avec toi, que ce soit un lien par rapport à ta mère ou à ton père. D'accord ? C'est bon ? Ça y est. Il y a pour les cheikhs. ما زال الإمام رحمه الله يتكلم عما ينبغي الأخذ به فيما يتعلق بصلة الرحم ويأتي بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالمعروف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأثرين اللذين مر من رواية ابن عمر رضي الله عنهما وها هنا يبين أمرا فيه تفصيل. Donc il dit ici, Cheikh, Aslan Fidallah, donc l'imam al-Bukhari continue encore, d'accord, on est toujours dans hein, cet énorme chapitre, ce grand chapitre qui est la bienfaisance envers les proches parents, d'accord, ou le maintien des liens de parenté. Donc il dit ici, on est toujours dans ce chapitre-là concernant donc tout ce qui a un lien avec justement les liens de parenté. Et il continue donc à évoquer les hadiths à ce sujet-là, ainsi que des, ce qu'on appelle des hadiths mawqufa. Mawqufa, c'est-à-dire des paroles de compagnons, des paroles de sahaba, des paroles qui s'arrêtent aux sahaba. D'accord ? Ces hadiths, on les appelle hadiths mawquf. D'accord ? Donc quand on dit marfou', mawquf, maqtou', c'est juste des notions qui renvoient à l'endroit où le texte s'arrête. D'accord ? Le texte, qui est-ce qui l'a prononcé ? Quand c'est le prophète qui l'a prononcé, on dit qu'il est marfoua. D'accord ? Quand c'est un sahabi, on dit qu'il est mawquf. Quand c'est un tabi'i, on dit qu'il est maqtou'. D'accord ? Mais ça, c'est juste des notions qui sont par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il est sahih. C'est pas parce qu'on dit marfou' qu'il est sahih. C'est pas parce qu'on dit qu'il est maqtou' qu'il est daif. Comprenez? Il se peut qu'on ait un marfou' daif et un maqtou' sahih. Taïb? Donc il n'y a pas de lien ici entre le, avec yani ces termes-là et l'authenticité du hadith. Ça, c'est autre chose. Mais ici, donc, on a vu donc, dans les cours derniers, notamment les paroles d'Ibn Omar. Deux paroles d'Ibn Omar, les deux hadiths derniers, c'était des hadiths mouqouf, qui s'arrêtaient à Ibn Omar, même si on a vu qu'il y a aussi des hadiths qui remontent jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui évoquaient les mêmes choses qu'avait évoqué Ibn Omar. D'accord ? Donc ici, il va évoquer quelque chose pour laquelle on va clarifier certains détails, inshallah. فهذا الحديث حق d'accord هذا الحديث حق donc je rappelle le hadith il dit que al-miqdam ibn ma'di karib a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire certes Allah vous recommande en faveur de vos mères certes ensuite il vous recommande en faveur de vos mères ensuite il vous recommande en faveur de vos pères ensuite il vous recommande pour en faveur du proche du proche au proche ainsi de suite d'accord non donc ce hadith haq wa huwa yufidu anna awla al-qarabati minka bil jamil wa isda' al-ma'ruf al-abawan al-abawan huma awla al-qarabati minka bil jamil ay bi ihsan bil birr wa isda' al-ma'ruf ilayhima والأم أكثر لما تحملت من المتاعب والمصاعب التي واجهتها من حين أن يكون الابن نطفة في قرار مكين إلى علقة إلى مضغة إلى أن يكون جنينا فتحمله الأم 9 أشهر غالبا في الغالب فتضع وتقاسي من ألم الوضع ما هو معلوم لدى العقلاء ثم يأتي دور الرضاعة في حولين سبحان الله حول سنتين كاملين ثم يأتي دور الحضانة في عدة سنوات الله أكبر وهكذا تبقى الأم متعلقة بابنها وإن كبر سنه لذا استحقت الأم من البر 3 أنواع كما في الحديث الآخر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك طيب Donc ce hadith est une vérité et il nous apprend que les personnes qui méritent le plus que tu sois bienveillant, bienfaisant envers eux, c'est qui ces gens-là ? Ce sont tes deux parents, ton père et ta mère. La mère, pourquoi la mère ? Tout simplement parce qu'elle a enduré des grosses difficultés, des épreuves auxquelles elle s'est retrouvée confrontée, et en est juste pour que tu sois en vie et que tu naisses. Taïm, à partir du moment où tu n'étais qu'une outfa, subhanallah, tu n'étais même pas encore un embryon ou un fœtus. Tu n'étais juste qu'une goutte, qu'une goutte d'eau, taïeb, et bien déjà elle commençait à endurer les douleurs et les difficultés de la grossesse. Cette goutte d'eau-là qui se trouvait dans sa matrice à elle. D'accord ? Donc Allah Jalla wa'ala a fait de la matrice de la femme, comme il a dit, qarar makin, un reposoir solide. yani préservé, protégé par Allah tabarak wa ta'ala. Puis tu es devenu alaqa, une adhérence, hein, comme un caillou de sang un peu, une adhérence, une sangsue. Vous voyez comment c'est fait les sangsues? C'est un peu comme ça l'alaqa. Puis tu es devenu mudra, yani un embryon, c'est-à-dire, hein? Non. Mudra, pourquoi mudra? Parce que ça ressemble à quelque chose qui a été mâché. Vous voyez que les chewing-gums, hein, les chewing-gums quand il est mâché, à quoi ça ressemble? Ben mudra, c'est un peu comme ça. Ça? Ouais. Jusqu'à ce que tu deviennes, après le mudra, tu deviens janin. Janin, c'est tous les bébés qui sont dans le ventre de la mère. Ouais. Qu'il est 5, 6, 7, 8 mois, on dit janin. Janin. Et donc cette mère, elle porte ce bébé-là dans son ventre, dans la plupart des cas, pendant 9 mois. Hein, ce qui est énorme, 9 mois. Pour ensuite accoucher et endurer encore après l'accouchement et pendant l'accouchement, les douleurs qui sont. Donc, que les gens hein, doués de raison savent comment la mère endure ces douleurs-là. Il y en a certaines qui, à ce moment-là, qui désirent même mourir. Certaines. Elle y demande la mort tellement ça fait mal, tellement la douleur est énorme, elles veulent mourir, subhanallah. Puis, après l'accouchement, vient l'étape de quoi? L'étape de l'allaitement. Ar-radah. L'allaitement. Pendant 2 années, pour celles qui le peuvent. Pour celles qui le peuvent, 2 années, subhanallah. Vous imaginez? 9 mois, 2 ans encore d'allaitement. Puis il y a tout ce qui est, après l'allaitement, l'éducation. L'éducation, l'instruction, l'apprentissage. Hein? Tout ça, c'est la mère qui s'en charge. Et l'éducation, elle, dure des années et des années encore, jusqu'à ce que l'enfant devienne autonome, on va dire. Plus ou moins autonome. Subhanallah. Donc, c'est pas pour rien que la mère ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé en faveur de la mère ses recommandations très très fortes. Et d'ailleurs on a vu que l'une des explications pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à chaque fois 3 fois pour la mère. Pourquoi 3 fois et pas 4, 5 ou la 2? Pourquoi 3? Parce qu'il dit justement les 3 étapes. La première étape, la grossesse, la deuxième, l'allaitement, yani, tout ce qui est allaitement, et l'accouchement, et troisième, l'allaitement. D'accord? C'est par rapport à ça. Non. Comme on l'a vu dans l'autre hadith apporté par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à qui on a demandé qui est la personne qui mérite le plus ma bonne compagnie. Sahabati. Il a dit ta mère. Puis on a dit ensuite qui? Il a répété ta mère. Ensuite qui? Il a répété une troisième fois ta mère. Et puis à la quatrième question, il a dit ton père. D'accord? Naam. فَمَذَاكَ إِلَّا لِمَا وَاجَهَتْهُ الْأُمُّ مِنَ الْمَشَقَّاتِ وَلِمَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِهَا مِنَ الْمَحَبَّةِ وَالْعِنَايَةِ بِابْنِهَا سواء كان ذكرا أو أنثى فيجب أن يستشعر المسلم أو أن يستشعر المسلم يستشعر المسلم هذه الأسباب وهذه الأمور التي بذلتها الأم وقاستها بسبب ابنها فإذا وفقه الله صار بارا بأمه بالكلمة الطيبة وبالتعليم وبالخدمة لا سيما عند الحاجة فقد تكبر الأم فتعجز عن قضاء حاجاتها فيرى الابن ذكرا وأنثى الجميل الذي قدمته وصنعته في الوقت الذي لا يستطيع أن يميط عن نفسه الأذى ولا يجلب لنفسه المصلحة وهذا أمر يعرفه العقلاء من الناس ويقدرونه. Non. Donc pourquoi encore une fois toutes ces recommandations là répété pour la mère, eh bien, par rapport à tout ce qu'elle a enduré, hein, comme difficulté, et par rapport aussi à cet amour qui est inné, cet amour maternel qu'Allah tabarak wa ta'ala a mis dans le cœur de la mère, cet instinct maternel, subhanallah, hein, cet amour, ce soin, yani, qu'elle donne de manière naturelle à ses enfants, que ce soit un garçon ou une fille. C'est pour ça qu'il est obligatoire que le musulman, il ressente cela. Il ne faut pas qu'il l'oublie. Qu'il ressente toutes ces causes-là et ces choses que la mère a fournies et a prodiguées à son enfant, et toutes les douleurs qu'elle a ressenties durant toutes ces étapes de la vie de l'enfant, taïeb, car ainsi l'enfant, il deviendra donc quelqu'un qui est bienfaisant, quelqu'un qui est bar, qui est bienfaisant, bienveillant envers sa mère, à travers de bonnes paroles, à travers le fait d'enseigner à sa mère des choses qu'elle ne sait pas, que ce soit des choses de la religion ou des choses de la dunya qu'elle ne sait pas, qu'elle ignore. Donc tu lui enseignes, bien sûr, en étant à son service, hein, en travaillant pour elle, surtout si elle en a besoin. Donc la mère, lorsqu'elle atteint un certain âge, elle ne peut plus faire certaines choses parce qu'elle est âgée, donc elle n'a plus la force physique de faire certaines tâches. Les gens, ils croient que la mère, elle est capable de par exemple faire des tâches jusqu'à sa mort. À un moment donné, elle n'a plus la force, que ce soit le ménage ou laver le linge ou etc., etc. Donc elle a besoin qu'on l'aide à ce moment-là, d'accord. Donc l'enfant, qu'il soit un garçon ou une fille, c'est pas juste la fille, parce que souvent on croit que c'est la fille qui va aider la mère. Non, le garçon, lui aussi, il doit aider sa mère, il doit être bienfaisant, bienveillant envers elle, et il doit se rappeler tout ce qu'elle lui a donné, tout ce qu'elle a fait pour lui à une période où lui ne pouvait pas subvenir à ses besoins, tout justement. Hein, quand tu es un nouveau-né, quand tu étais un petit garçon, hein, jusqu'à l'âge, l'année où tu es devenu autonome, un homme, alhamdoulilah, l'année qui, s'il n'y avait pas ta mère, s'il n'y avait pas, hein, si elle n'était pas là pour toi, comment tu aurais fait? Comment tu aurais fait? T'as vu? Donc c'est elle qui t'a défendu, qui t'a protégé. C'est elle qui t'a donné tout ce dont tu avais besoin. T'as vu? Donc c'est pour ça que toutes ces choses-là, seuls les gens qui réfléchissent, qui sont doués de raison, ils s'en souviennent et se rappellent de ces choses et donnent de la valeur à tout ça. ويليها في القرابة الأب لما له من المتاعب ولما له من السبب الأعظم. طيب نعم الأب هو السبب الأعظم في وجود هذا الولد فإنه صار سببا في وجود الابن ذكرا كان أنثى مع الأم كلاهما سبب في وجوده وحياته كما هي فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها وهو الزواج بين ذكر وأنثى فنشأة الخليقة عفوا فتنشأ الخليقة وتتكاثر ويكثر سوادها بسبب الزواج الذي حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة سببه من الأب والأم. طيب donc vient ensuite après la mère le père. Bien sûr, après la mère vient le père, encore une fois, par rapport à ce qu'il endure lui aussi, bien sûr, comme difficulté, hein, comme devoir, responsabilité par rapport à ses enfants. Et aussi parce que c'est, bien sûr, la cause première de son existence. Ça a été la cause première de son existence, de l'enfant, avec la mère, bien sûr. D'accord ? Donc si tu existes, ce n'est que par la cause de ton père et de ta mère. D'accord ? Que tu sois, il y a ni un garçon ou une fille. Donc tes deux parents sont la cause de ta vie, de ton existence. Rien que pour ça, tu leur dois respect, hein, bienfaisance, bienveillance, yani, tout au long de ta vie. Rien que pour ça. Subhanallah. Bien sûr, c'est Allah tabarak wa ta'ala qui a fait que le mariage, l'union entre deux personnes, soit la cause de tout ça. Donc, l'existence des créatures, que ce soit chez les humains comme chez les animaux, l'existence des créatures, leur multiplication, leur prolifération, ce n'est que par la cause du mariage. Par la cause du mariage. Et le mariage, c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a encouragé justement au mariage. Et le mariage, pas avec n'importe qui, mais comme il a dit ici, épouser el-wadoud el-waloud. El-wadoud, donc celle qui est affective envers son mari, hein, celle qui montre de la tendresse envers son mari. Donc il faut en priorité se marier avec ces femmes-là. Ça veut dire qu'il existe des femmes qui malheureusement sont... c'est le contraire, là, c'est le contraire. Qui sont froides, qui sont pas tendres ou affectueuses. Donc choisissez, si c'est pas trop tard, choisissez celles qui sont affectueuses. Et il a dit El-Waloud. El-Waloud, celle qui est féconde. Ouais. Féconde. Celle qui, bi'ivnillah, il est probable qu'elle ait beaucoup d'enfants. D'accord ? Comment on fait pour savoir ça, les frères ? Hein ? Non. Tu regardes, parce que je ne peux pas savoir en avance si elle va avoir des enfants ou pas. Tu regardes, les ulama disent, tu regardes les femmes de sa famille, sa mère, sa soeur, sa tante maternelle, etc., etc. Tu regardes. Donc si tu regardes que, en général, c'est des femmes qui enfantent beaucoup, alhamdoulilah, donc tu sais que probablement, inchallah, elle aussi, elle enfantera beaucoup. D'accord ? Puis il dit parce que je serai fier de vous comparé aux autres communautés. D'accord ? Par rapport aux autres communautés précédentes, je serai fier d'être d'avoir la communauté la plus nombreuse. Donc la cause de tout ça, c'est quoi ? C'est le père et la mère. Le père et la mère. La cause de cette fierté, inshallah, qu'aura le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les parents. وقوله ثم الأقرب فالأقرب أي كذلك ينتقل البر إلى أقرب شخص كالبر بالأبناء. طيب ثم البر بالإخوة ثم بالأعمام والبر بالأخوال ذكورا وإناثا وهكذا يمتد البر والصلة إلى كل من تمت إليهم بالصلة يتفقون معك في النسب من قبل الأب أو الأم وذلك بحسب القدرة والاستطاعة. Puis il dit, donc on a parlé de la mère, du père, puis à la fin il dit ensuite al-aqrab al-aqrab, le plus proche, et ainsi de suite. D'accord? Donc on voit qu'il y a un ordre ici, un ordre. Bien sûr, la priorité ou celle qui mérite le plus, bienfaisant, c'est la mère, puis le père, puis les gens de ta famille dans un ordre de proximité. D'accord ? Alhamdoulillah. Donc bien sûr, qui sont les plus proches après les parents ? C'est les enfants. Tes enfants. Ensuite, on a les frères et les sœurs, et les khouas. Les frères et les sœurs. Puis on a les amas, donc les oncles et les tantes, que ce soit du côté maternel ou paternel. Fille ou garçon, peu importe. D'accord ? Et ainsi de suite. Et c'est comme cela que donc le lien des parentés, le maintien des liens de parenté va continuer et se prolonger avec tous ceux qui ont un lien avec toi, de près ou de loin. Et quand on dit un lien, c'est un lien avec ta mère ou ton père. D'accord ? Il faut savoir que dans la famille, on dit, il y a trois catégories de personnes. On a Al-Usul, Al-Furu' et Al-Hawashi. Al-Furu' Al-Usul, Al-Hawashi. من هم الأصول؟ الأصول سهل. نعم أحسنت. الأصول كل من تفرعت منهم. أنت تفرعت منهم. Tous ceux dont tu descends, desquels tu descends toi. C'est l'أصول. Tes parents, tes grands-parents, arrière-grands-parents, etc., etc. On les appelle الأصول. D'accord. Puis on a الفروع. من هم الفروع؟ لا لا احسنت الديسندانس كل من تفرع منك انت tous ceux qui descendent de toi on les appelle les فروع tes enfants tes petits enfants etc etc الفروع الحواشي كل من تفرع من اصولك الحواشي tous ceux qui viennent de tes usul tes oncles tes tantes tes cousins tes cousines c'est bon. Ouais, je crois qu'on dit ascendant. Les ascendants. C'est ça, l'ascendant. Ascendant, c'est le usul. D'accord. Les parents, les grands-parents. Descendant, el furu', les enfants, petits-enfants. El hawashi, sur les côtés.
Collatéraux.
Ouais, collatéraux. Alhamdulillah. Dommage collatéraux. D'accord. Alhamdulillah. Taïeb. Donc, ça, c'est un bab qui est important. Pourquoi c'est important de connaître ces usul, furu' et hawashi? Parce que, par rapport déjà aux dépenses, pour qui tu es obligé de dépenser de l'argent? Hein? Pour ta famille, mais qui la famille? La famille, elle est énorme. Est-ce que tu es obligé de dépenser pour ton frère ou ta soeur? C'est un bab. Bab wasi'. Bab wasi'. D'accord? C'est un bab qui est grand, alhamdoulilah. Mais, pour résumer, tout ce qui est usul et furu, à la base, c'est obligatoire. Ça, c'est la base. Usul et furu. Tes parents, grands-parents, etc., enfants, petits-enfants. À la base, tu es obligé de dépenser pour eux. À condition, bien sûr, que tu as les moyens. D'accord ? Tu as les moyens. À condition aussi qu'ils sont dans le besoin. Donc, s'ils sont plus riches que toi, il n'y a pas de... Tu vois ? C'est plus obligatoire. Mais s'ils sont dans le besoin, que toi, tu as les moyens, tu dois dépenser pour eux. Wajib. Obligation. Ça veut dire quoi, obligation? Ça veut dire que si tu ne le fais pas, tu as un péché. Et ça veut dire aussi que tu n'as pas le droit de leur donner la zakat. Zakat al-mal aussi. D'Allah yajouz. Tu as une zakat à sortir. Est-ce que tu as le droit de la donner à ta femme, la zakat? Non. Parce que ta femme, tu dois déjà la nourrir à la base. Tu ne peux pas tricher. C'est une ruse, ça. C'est une ruse. Ni à tes enfants, ni à tes parents. D'accord? Puis on a ce qu'on appelle le hawashi. Le hawashi, il y a un lien avec l'héritage. Il y a un lien avec l'héritage. D'accord ? D'ailleurs. Alhamdulillah. On est où ?
Par rapport aux grands-parents, ils sont considérés
pas
dans la première catégorie.
Oui, ascendant. On a dit tous ceux dont tu viens. Toi, tu viens de qui? Tu viens de tes grands-parents. Tu vois, tout ça, c'est, tu descends de eux. Comme je dis, les conditions, qu'ils soient dans les besoins et que tu aies les moyens. S'ils sont pauvres et que tu as les moyens de dépenser pour eux, c'est obligatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que tu as dépensé pour toi, pour ton épouse, pour tes enfants, pour tes parents, s'il te reste de l'argent, pour eux, tu dois dépenser pour eux, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Avant les frères et sœurs. La priorité, c'est le usul, le furu'. Avant le hawashi. Avant le hawashi.
Si
la personne est pauvre, il est sur le bon. Allah, je vais faire quoi? La yakalif Allah, il nafsad illa Allah n'impose pas plus que tu peux. T'as pas de péché, alhamdulillah. T'as pas de péché.
Je veux dire, si tu commences par ta famille.
Bien sûr. Non, il y a des priorités.
Ta femme et tes enfants.
Voilà. D'abord toi, parce que si tu meurs de faim, il n'y a plus rien. Donc toi déjà, je te nourris à toi.
Avant les enfants.
Avant tout le monde, toi d'abord. Ensuite, tes enfants et ta femme, ton épouse et ta... Il faut savoir que la condition qu'on a dit là, la richesse, etc., la femme, elle n'est pas concernée. L'épouse, elle n'est pas concernée. Ça veut dire que l'épouse, si elle est riche, même si elle est riche, c'est à toi de la nourrir. Même si elle est riche. Et que toi, tu es pauvre. D'accord ? Ça concerne uniquement les enfants, les parents et tout. L'épouse, c'est particulier.
Par contre, si elle est riche, faut dépenser son argent, faut demander la permission à son mari.
Pour dépenser son argent à elle ? C'est son argent, Ré. C'est son argent. Pourquoi tu veux que tu me donnes autorisation ? C'est son argent. Si toi, tu vois qu'elle fait du gaspillage, c'est une chose. Mais c'est son argent. À moins que, quand tu t'es marié avec elle, lors du contrat de mariage, tu as dit, voilà, ma condition, tu ne dépenses rien sans ma permission. Elle te dit, oui, ouais, elle est obligée de respecter ce que tu as dit. Mais sinon, à la base, c'est son argent. Son argent. D'ailleurs, tu n'as pas le droit de lui dire donne-moi ton argent, voilà, c'est son argent. Même si elle est riche et que toi tu es pauvre, si elle ne veut pas dépenser pour la nourriture, le loyer, les factures et tout, elle a le droit. D'ailleurs, les frères, continuez. C'est bon. Non, mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas participer, non. Il faut que si elles le font, elles le font pour Allah, elles seront récompensées, alhamdoulilah. Bien sûr. Les musulmans, ils ne sont pas. Hein, ils ne doivent pas être. Ouais, c'est mon argent, non. Il faut qu'au contraire, il faut qu'ils aident. Elles voient que le mari, il est dans des difficultés financières et tout, elle doit l'aider. Elle l'aide, subhanallah. Allah Moustah. Donc tout ça en fonction, bien sûr, comme dit le cheikh, en fonction des capacités, hein, de chacun et chacune. Alhamdulillah. Ma yu'khadhu min al-hadith. Awwalan fi al-hadith tafsilun ووصية من الرسول صلى الله عليه وسلم بتأكيد وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الوصية هاهنا فيما روى الإمام بتثنية نعم قال في الحديث إن الله يوصيكم بأمهاتكم ويوصيكم بأمهاتكم مرتين فقط مرتين لا ثلاث ويقول إذن ذكر الحافظ مع ذلك الحافظ في الفتح ذكر الوصية فيه ثلاث مرات وكذا ذكره ابن كثير في تفسيره إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثلاث مرات ثم يوصيكم بآبائكم وإن علوا ويدخل في ذلك الأجداد وإن علوا ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. Donc ce que l'on tire du hadith, premièrement, l'explication, l'exposé et la recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec insistance, hein, avec insistance. Et vous remarquez, pour ceux qui l'ont remarqué, je pense, dans ce hadith là il l'a répété que deux fois, hein, il a dit certes Allah vous recommande en faveur de vos mères, ensuite vous recommande en faveur de vos mères. Il l'a répété que deux fois et pas trois. Mais il faut savoir que Al-Hafidh, les frères, quand on dit Al-Hafidh, on parle de qui en général, hein? Ibn Hajar. Surtout que là il dit fil fath. Donc quand on dit Al-Fath, c'est quoi? Hein? Fath al-Bari. Fath al-Bari. Explication de Sahih al-Bukhari. D'accord? Il a dit, Ibn Hajar, la recommandation a été faite trois fois. Et également, Ibn Kathir, dans son tafsir, il a rapporté ce hadith et l'a évoqué trois fois aussi. La phrase, Inna Allah yusikum bi ummahatikum. D'accord ? Trois fois et pas deux fois, comme l'a rapporté le Bukhari ici. Non. Puis il a cité donc Al-Aba, c'est-à-dire les pères. D'accord ? Al-Aba, c'est-à-dire les pères. Wa in alaw, c'est-à-dire même si même les grands-pères, in alaw, même ceux qui sont au-dessus des parents, des pères. Les grands-pères, les arrière-grands-pères, etc. sont concernés également. Taïeb, thumma, et puis ensuite, il vous a recommandé bil aqrab fal aqrab, les gens les plus proches, et ainsi de suite. Thaniyan, wasiyatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-mu'akkada bi husni suhbati ma'a al-um. إنما كانت بسبب المشقة التي يعانيها ما يكون من أمر الحمل والرضاعة ولأن كثيرا من الناس يتهاونون في أداء حقوق الأمهات ولأن البر إنما يكون مخفيا لا يرى بعكس ما تعلق بالأب فإنه يكون في المحافل أي الأب يكون في المحافل يكون على رؤوس الأشهاد ولأن الأمة ضعيفة كذلك ولأنها سريعة الغضب وسريعة التقلب فقد تغضب فتدعو على الولد فاستجيب الله تعالى لها فيه فوصى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ولغيره مما لا يعلم حكمته إلا الله عز وجل ووصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأكيد مع تكرار أو مع تكرار بحسن الصحبة مع الأم وإنما كان ذلك بسبب المشقة التي تعانيها الأم في الحمل والوضع والرضاع وذلك لا يعاصره إدراكا الولد وإنما يدرك وقد شبع عن الطوق فلم يرى من تلك المعاناة من شيء فهو يجعلها نسيا منسيا وقد يجحد حق الأم ولأنه إذا أراد شيئا طلبه في الغالب من أبيه لا من أمه فلا يرى حينئذ لأمه عليه من فضل فيتهاون الناس حينئذ في أداء حقوق الأمهات فأتى التكرار لإفادة التوكيد الله أكبر فائدة عظيمة يجيس للشيخ رحمه الله حفظه la recommandation de النبي صلى الله عليه وسلم avec insistance par rapport, on a dit, la bonne compagnie, la bienfaisance envers la mère. On a dit donc déjà, premièrement, ce n'est que en vertu du fait des difficultés, comme on a dit, qu'elle a rencontrées lors de la grossesse, lors de l'allaitement, etc. Et aussi parce que beaucoup de gens sous-estiment le droit des mères. Sous-estiment. N'ont pas, ne considèrent pas cette bienfaisance-là à sa vraie valeur, à sa juste valeur, le droit que les mères ont sur leurs enfants. Taïeb, pourquoi ? Parce que les actes de bienveillance en général pour la mère sont des actes qui ne sont pas visibles aux yeux de tout le monde. Pourquoi ? Parce que la mère en général elle est à la maison, elle est chez elle, c'est pas comme le père. Le père lui, au contraire, il se trouve dans les assemblées, dans les assises, lors des dîners, lors des repas, lors des... D'accord ? Donc, le père, lui, il est souvent en public. Donc, forcément, l'enfant, lui, quand il est avec le père en public, yani, ça va l'inciter à faire du bien pour son père. D'accord ? Devant les gens, etc. etc. Taïb ? Ça, c'est la première raison. Première raison. Deuxième raison, sans parler, bien sûr, la grossesse, etc., etc. Deuxième raison, le fait que la mère, les mères, en général, elles sont faibles. D'accord ? Mentalement, sont plus faibles que les hommes. En général, on ne parle pas des exceptions. Il y en a plein de mères. Par exemple, elles se mettent facilement en colère. Les mamans. C'est vrai ou pas ? En général, les mères envers leurs enfants se mettent plus vite en colère que le père. Pour ceux qui sont mariés ou autres, peut-être c'est une situation qu'ils ont remarqué. En général, la mère elle est moins patiente que le père. Hein? Ça dépend. Hein? لا قال الشيخ يعني هنا في الغالب في الغالب هي سريعة الغضب عند الجزائريين الأمة أصبر أصبر من
هو
C'est pareil, si tu te mets en colère, si tu n'es pas patient. Si tu te mets rapidement en colère, ça veut dire que tu n'es pas patient. C'est la même chose. D'accord ? En tout cas, après chacun ce qu'il a vécu, son expérience personnelle. Mais voilà, la femme, elle est connue pour ça. Elle est connue pour être moins patiente. Mais pourquoi ? C'est normal. Moi, c'est tout à fait normal. Pourquoi ? L'homme, il est dehors. H24, il est dehors. Quand il rentre à la maison, c'est normal, il est patient, il n'a pas vu son enfant. La mère, elle a été du matin jusqu'au soir avec lui. Elle n'en peut plus de lui. Elle n'en peut plus de son enfant. Il a fait hala du matin au soir. Comment tu veux qu'elle soit patiente? Donc c'est compréhensible. Bien sûr, c'est compréhensible. Quoi qu'il en soit, voilà. D'accord? Par rapport à ça, ça a l'air. Le fait que la mère aussi, elle est instable. Hein? Elle change. Par rapport à certaines choses aussi, elle a changé. Il y a ces périodes de menstrues, etc. Fait que. Elle change souvent d'humeur, d'accord. Donc il se peut qu'elle se mette en colère et qu'elle invoque contre son enfant. A'oudhu billah. Ya Allah, yani, hein? Qtulhu là. A'oudhu billah. C'est vrai ou pas? Et que si la dua, elle a été faite en plus. À cause d'un mal qu'a fait l'enfant, il se peut qu'Allah Jalla wa'ala exauce sa dua. Exauce sa dua, comme on l'a vu dans le hadith de Jureyj. Ahsant. Subhanallah. Pourtant, Jureyj. D'accord ? C'était pas Anna, voilà. C'était pas nous. C'était Jureyj. Subhanallah. Donc, c'est pour ça que le prophète il a insisté par rapport à la mère. Pour toutes ces raisons-là, qui fait que le prophète, il a vraiment souligné et insisté que l'enfant, il doit faire attention. Il doit faire attention à sa mère et être sur ses gardes. Il le fait pour Allah, tabarak wa ta'ala, bien sûr. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette recommandation-là pour ces choses-là, et autres aussi, hein, parmi les sagesses que seul Allah, tabarak wa ta'ala, a gardé pour lui. Non. Donc il a répété, comme vous l'avez vu, plusieurs fois, trois fois. Notamment aussi par rapport aux trois étapes qu'on a vues, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement. Et en plus, il dit les chers, une chose qui est, subhanallah, qui est très intéressante, mais auquel on ne pense pas, ces trois étapes-là, elle les a vécues sans que toi tu t'en rendes compte. L'étape de la grossesse. Est-ce que tu te rappelles de la grossesse de ta mère ? Yannick, quand tu étais dans son ventre, est-ce que tu te rappelles de l'accouchement, comment elle t'a accouché? Est-ce que tu as des souvenirs de quand est-ce qu'elle t'a allaité? Tous ces moments-là, tu n'as aucun souvenir. Tu n'as aucun souvenir. Subhanallah. Allah Jalla wa Ala, il t'a nourri, il t'a fait vivre par la cause de ta mère. Par contre, elle s'en souvient. Par contre, elle n'oubliera jamais. Elle n'oubliera jamais l'accouchement. Toute sa vie, elle va s'en souvenir. Subhanallah. Donc il dit, le cheikh, regarde. Toutes ces étapes-là, pendant lesquelles tu étais vivant, tu n'étais pas mort, tu étais vivant. Tu mangeais, tu te goinfrais, tu étais bien, on te lavait, on te nettoyait, tu faisais tout, on t'habillait. Pourtant, tu n'as aucun souvenir. Malgré ça, hein? Puis après, quand tu es devenu soi-disant un homme, taïeh, eh bien, tu oublies ces étapes-là. D'accord ? Tu les oublies. Même pas tu les oublies parce que tu n'as aucun souvenir. Tu ne peux pas les oublier. Mais tu fais comme si ils n'existaient pas. Tu fais comme si ta mère, hein, n'avait rien vécu de ces choses-là. Subhanallah. Non. Même si tu n'as aucun souvenir, tu dois y penser. Et tu dois te dire, non, elle a vécu ces choses-là. Elle les a vécues. Il se peut que, en ne pensant pas à ces choses-là, il se peut que la personne carrément refuse de donner le droit à sa mère. Pourquoi il refuse? Parce qu'il n'a aucun souvenir et parce qu'il ne pense pas à ces étapes-là qu'a vécu sa mère. Et aussi parce qu'en général, il dit les chers, l'enfant, quand il a besoin de quelque chose, il va aller voir qui? Il va aller voir le père. Et l'enfant, quand il a besoin d'argent ou un truc comme ça, il va aller voir son père. D'accord? Donc du coup, il n'a pas cette reconnaissance envers la mère. Il aura plus pour son père. Parce qu'il voit que son père, c'est lui qui travaille. C'est lui qui ramène l'argent à la maison, qui fait les courses, qui ramène la nourriture, qui lui achète des habits, qui lui achète ce qu'il achète ça. Donc il va avoir ce sentiment-là de remerciement et de reconnaissance plus pour son père que pour sa mère. Mais il oublie que sa mère, elle a souffert pendant 9 mois. Puis elle a souffert à l'accouchement, puis elle a souffert à l'allaitement, puis elle a souffert. Il oublie tout ça. Pourquoi il oublie? Parce qu'il n'a pas vécu. Il l'a vécu, mais il ne s'en souvient pas. Comprenez la différence, subhanallah. Donc, l'être humain, il réfléchit bêtement. Au lieu de dire, ah ouais, mais c'est vrai, elle a vécu ceci et cela, Yanné. Il voit l'instant présent, et il se dit, ouais, papa, lui, c'est lui qui ramène tout ça. Là, c'est lui qui fait tout. Donc, c'est une injustice envers le père. Et des fois, le père, il en profite aussi. Le père, il en profite. Là, oustad. Donc c'est pour ça que les gens se mettent à sous-estimer le droit des mères, donc c'est pour cette raison là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté, il a insisté sur les mères, subhanallah, c'est pas pour rien. ثالثاً عدم التكرار في الوصية مع الأقارب يشير إلى أن حقهم وإن كان متأكداً وإن كان متأكدا ولكن هذا الحق ليس مؤكدا كتأكيد حق الأبوين. طيب. Troisièmement, on remarque que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répété cette chose-là, que ce soit pour le père ou pour les autres parmi les proches. Même si ces droits-là, surtout le droit du père, c'est un droit qui est très important, qui est fort aussi. Qui est non, mais ce n'est pas un droit qui est aussi important que celui de la mère. Et également, le droit des autres proches, que ce soit les enfants, ou les oncles, ou les grands-parents, les frères et les sœurs, ce n'est pas un droit qui est aussi important que celui des deux parents, que ce soit le père ou la mère. D'accord ? Rabi'an, takrar al-fi'li ma'a al-tawkid يدل على الاهتمام بالوصية ثم يوصيكم فشدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بتكرار الفعل. Quatrièmement, le fait qu'il ait répété plusieurs fois le verbe يوصيكم, il vous recommande. Ici nous montre l'importance de الوصية, la recommandation, le fait de recommander des choses. Donc ici le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté, il a appuyé ici sur cette wasiya que l'on doit faire à nos proches, etc., en répétant par exemple le verbe lorsque tu veux conseiller quelque chose à quelqu'un et que tu veux insister sur le conseil, il est bon de répéter plusieurs fois la recommandation comme l'a fait ici النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن شاء الله نكتفي بذلكم والعلم عند الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم.